des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
C'est quoi ce Félix? Expira Risk Mitigation and Investigation. C'est quoi cette entreprise-là? Ça sort d'où, ça?
C'est absolument nulle part. Absolument nulle part. Honnêtement, je vois pas. On n'a jamais entendu parler de ça. Connaît pas. On sait pas.
T'sais? Tu sais, comme Garda, je connais ça. Là. Garda, c'est connu de tout le monde. Puis bon, si on avait donné à Garda des millions de dollars pour, bon, la sécurité, le chemin Roxham, on pourrait à la limite comprendre. Mais c'est quoi cette entreprise-là?
Ben, c'est cette firme-là qui gère l'hébergement de milliers de demandeurs d'asile au Canada, qui a décroché des millions de dollars grâce au chemin Roxham. Puis je trouve que c'est un article très pertinent de Nicolas Brasseur et Nora Télamontagne aujourd'hui dans le Journal de Montréal, parce que on fait la ventilation des contrats. Donc 75 millions donnés par Ottawa, dont certains contrats, pas d'appel d'offres, à cette firme-là dont on vient de parler. C'est une firme d'enquête privée qui s'occupe principalement des immigrés qui arrivent par le chemin Roxham. Quand on fait des textes comme ça, c'est là, moi, où je trouve que le journalisme est utile, parce que il y a toujours quelqu'un à quelque part qui, légalement ou non, dans ce cas-ci, ça a toutes les apparences d'être légal, là, mais qui profite de la situation et qui se remplit les poches. Alors, cette entreprise-là a décroché 56 millions de dollars en contrats pour loger les migrants au Québec, en Ontario, dans les provinces maritimes. Au total, la moitié des contrats octroyés par le fédéral depuis 2020, ça va à eux. C'est Immigration Canada qui confirme ça avec des données que le ministère possède. Sauf que la question qu'on se pose, quand une firme de sécurité puis d'enquête qui obtient un contrat pour loger des demandeurs d'asile, c'est un peu, c'est pas un contrat emploi, mais c'est pas ce que tu fais normalement. Je veux dire, la firme Expira, là, elle fait des enquêtes, de la surveillance, de l'évaluation de risque. Elle n'est presque pas connue au Québec où la majorité des migrants arrivent. Mais là, tout d'un coup, c'est la seule soumissionnaire pour un contrat de 37 millions en octobre dernier pour trouver des hôtels puis des traiteurs. Tu sais, je veux dire, c'est comme si moi, j'avais un contrat d'horticulture avec la ville de Montréal plutôt qu'un contrat. Je sais pas, moi, pour devenir porte-parole ou expert en communication, une chose que je connais qui est mon domaine. Alors, c'est ça, je trouve que c'est
important. Mais Félix, souviens-toi, Pierre Gay, hein, en octobre 2022, on avait appris que Pierre Gay, qui était un donateur du Parti libéral du Canada, un donateur important, avait reçu justement des contrats de gré à gré là, de l'ordre de près de 30 millions. C'était 28 millions de dollars pour des terrains, pour des dortoirs, etc., pour recevoir les migrants. On se disait, c'est quoi son expertise à ce gars-là là-dedans?
En tout cas, ce que je sais, c'est que t'es quelqu'un qui. Honnêtement, là, quand tu sais comment faire de l'argent, puis quand tu vois ces contrats-là passer, puis tu es habitué aux appels d'offres publics, puis tu es habitué à soumissionner, puis moi, je veux pas. Aucun blâme là, pour l'instant à transférer sur cette firme-là, mais sapristi que je trouve ça curieux. Puis je parlais ce matin à une bonne source dans le domaine de la sécurité qui trouve ça, elle aussi, assez curieux. Mais... parce que normalement, si, par exemple, cette personne-là, dont je tairais le nom, aurait voulu avoir ce contrôle-là, il dit, moi, écoute, je n'aurais pas pu soumissionner là-dessus. J'aurais été incapable.
Écoute,
je peux pas prétendre à l'expertise que ça prend pour loger, pour nourrir ce monde-là. Il faut que je me parte une business de zéro. Il y en a peut-être qui sont dit chez Expira, pourquoi pas, partons ça de zéro. Alors,
j'imagine que.
Écoute, ça, quand ils sont allés à Laval, mes collègues, là, parce qu'on connaît pas beaucoup Expert au Québec, quand ils sont allés à Laval, ils sont tombés sur des bureaux déserts. Les seuls bureaux du Québec, d'ailleurs, il y avait comme des boîtes en carton. Il y a deux directeurs généraux pour le Québec, il semble, mais ils ont pris leur retraite et ils ont engagé personne depuis ce temps-là.
Écoute, j'imagine que Nora Télamontagne et Nicolas Brassard qui signent ce texte-là vont continuer à fouiller parce que là, on se demande, c'est-tu un proche du Parti libéral? Y ont-tu des liens? Comment ça se fait qu'ils ont eu ce contrat-là? On va savoir ça peut-être au cours des prochains jours, mais c'est assez particulier. Félix, récemment, j'ai revu un film que j'avais vu adolescent qui s'intitule The New Centurions. OK? Un film des années 70 avec Stacy Keach et George Scott. Je te parle de ça, écoute-moi bien. C'était le premier film à montrer de façon réaliste la vie des policiers. Et ça, ce film-là a été un peu prophétique, puis ça a ouvert la porte à des séries comme NYPD Blue, puis des séries comme The Wire et tout ça. C'était le premier film vraiment réaliste. Et c'était l'histoire d'un jeune policier qui commence, et tu voyais sa vie de tous les jours, et des cas de santé mentale dans la rue, puis des cas de violence conjugale et tout ça. Et à un moment donné, à la fin du film, il est appelé pour aller dans une maison où c'est un couple qui chicane, une affaire de routine. Il rentre là, lui, et le gars qui chicane avec sa blonde sort un gun, tire sur le policier et le policier meurt. Comme ça. Dans une affaire totalement banale, pas une fusillade avec la mafia ou des gangs de rue, puis tout ça. Rien que vraiment un appel, violence conjugale, voilà, pouf, le film se termine comme ça. Écoute, c'est un peu ce qui s'est passé à Louisville. Là. Ça n'a pas de maudit bon sens.
Ben, oui, ça pourrait reprendre certaines de ces scènes-là sûrement parce que la policière Maureen Beau, qui était une sergente, qui comptait 20 ans d'expérience à la Sûreté du Québec, est entrée dans un logement de Louisville pour une intervention et elle a fait face à un homme qui manifestement était très agressif, qui l'aurait poignardé à la gorge, qui l'aurait balancé en bas du deuxième étage. Lui aussi a été atteint mortellement. Il y a un autre policier qui a été blessé, on ne craint pas pour sa vie. C'est un gars qui proférait des menaces au fond, tu sais, dans un immeuble à logement, là, c'était sur l'avenue Saint-Laurent. Alors, il aurait dissimulé un poignard qui se trouvait pas trop loin, deux coups aux agents. Donc, il est atteint par balle, mais il a le temps de poignarder à la gorge, donc mortellement, puis pousser la sergente Beau en bas du deuxième étage. Le mari de Mme Beau est aussi policier. Évidemment, il y a un concert aujourd'hui d'hommages puis de bonnes pensées qui vont à la Sûreté du Québec. Je pense à François Bonnardel, je pense à Yann Lafrenière, je pense à... Mais faisons le nôtre, notre propre constat là-dessus, parce que toi et moi, on parle souvent de ça, parce que nous avons ensemble suivi une formation qui nous mettait dans une situation réelle d'intervention. À Boscoville pour avec des officiers de la Sûreté du Québec. Et rappelez-vous toujours d'une chose. Contrairement aux civils comme nous, les policiers qui se réveillent le matin ne savent pas trop de quoi leur journée sera faite. Le nombre d'appels qu'ils peuvent avoir est varié. Il y a beaucoup de détresse, il y a beaucoup de problèmes de santé mentale et la fraction de seconde qu'ils ont pour réagir parfois fait la différence entre la vie ou la mort.
Écoute,
on a été devant ces expériences-là, puis moi, honnêtement, je serais pas capable de faire la job.
Comme quoi, chaque appel, là, tu sais jamais ce qui t'attend, puis peut-être c'est un appel pour une violence conjugale, puis tout ça, mais il faut que tu sois vraiment attentif, parce que tu sais pas ce qui est arrivé. Écoute, à Verdun, il y a quelques années, il y a plusieurs années de ça, je me souviens, ça m'avait frappé. C'était, écoute, un gars qui a pas fait son stop en auto, la police arrive, exactement comme on avait fait dans notre formation qu'on avait fait, toi et moi, pour JE. Alors, la police arrive, puis bon, on demande les papiers du gars, qui a pas fait son stop. Le gars sort un gun, paf! A tiré le policier, il l'a tué. C'était une intervention de routine là pour voir les papiers du gars, le permis de conduire d'un gars qui n'a pas fait son stop. Le policier a risqué sa vie. Donc, quand ils partent le matin, ils savent jamais s'ils reviennent. Puis tu sais, il y en a beaucoup de gens qui critiquent les policiers, puis c'est tous des racistes, puis c'est tous des pourris, puis ils abusent de leur pouvoir. Tant une minute, là, c'est une job que personne voudrait faire. T'sais. Très peu de gens
exactement
voudraient faire.
Puis honnêtement, tu sais, il y a personne qui sait à quel point c'est difficile d'être policier. Puis pour la paye que ces policiers-là obtiennent là, à la fin de la journée, là, les policiers, là, à part ceux qui font là, une tonne d'overtime, là, c'est pas des 150 000 par année, là. C'est pas des salaires énormes, là. Pour mettre sa vie en danger, moi, honnêtement, tu vas me dire, j'ai un billet favorable au monde de l'urgence parce que je connais tellement de policiers, de pompiers, d'ambulanciers. C'est mon monde, un peu. Mais par contre, quand il s'agit de protéger et servir, moi, la majorité des policiers que je connais, c'est ça, c'est des gens qui mettent la vie des autres, qui placent la vie des autres avant la leur. Tu comprends? Qui veulent tellement protéger, qui veulent tellement servir, qu'ils sont prêts à se mettre dans des situations extrêmement dangereuses pour le bien commun. Et quand je pense à des événements comme ceux d'aujourd'hui, ça me remplit de tristesse parce que ouais. Je suis persuadé que Mme Brault et son conjoint faisaient partie de cette race, entre guillemets, d'humains qui ont à cœur le bien de tout le monde. Et quand tu deviens policier, pour moi, c'est ta principale qualité, c'est ça à quoi t'obéis. Oui, t'es le bras armé de la justice, on s'entend, c'est toi qui vas aller faire des arrestations, c'est toi, mais t'es aussi une personne qui veille au bien commun. Et quand tu perds la vie dans ces fonctions-là, moi, ça fait longtemps qu'il y a un policier qui n'est pas mort en devoir au Québec. Ça fait plusieurs années.
Ça fait longtemps, hein? Alors, une policière, 20 ans d'expérience, puis boum, c'est cette journée-là où elle, son numéro est sorti. Ouais. Et, ça fait 20 c'est ans vrai. Qu'elle part le matin, puis qu'elle dit à son chum puis ses enfants, ben on se voit à souper, puis tout ça. Puis là, boum, veut dire une intervention qui aurait dû être une intervention de routine. C'est terminé comme ça. C'est vraiment hyper tragique.
T'as 20 ans, oublie pas comme les policiers utilisent l'expression, le 20 ans de date, là, c'est ça la manière dont ils parlent, à 20 ans d'ancienneté dans la police, là, t'es pas loin de la retraite. Là. 20 ans de police, là, c'est beaucoup. Là. T'es pas loin de la retraite. Là.
Merci. Ouais, c'est super triste. Merci beaucoup, Félix Séguin. Merci. On se parle demain.
Bye. Salut.